Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Chapuis.
Et le journal vous est présenté par Céline Landreau. Bonjour Céline.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et la prison ferme pour 4 gilets jaunes de Valence, jugés pour avoir agressé un policier.
Un commissaire roué de coups lors d'une manifestation début décembre, les militants dénoncent des peines trop sévères. Les gilets jaunes au cœur du combat politique en vue des européennes, courtisés par des partis qui craignent de voir leurs électeurs s'envoler. Faut-il introduire de nouveaux ours dans les Pyrénées? Les associations de défense des plantigrades le réclament. Pas du goût de tous les bergers. Et puis l'année 2019 sera-t-elle un bon cru pour les ponts? On jette un coup d'œil sur le calendrier avec des salariés à la fin de ce journal.
Dans la prochaine demi-heure, les sportifs au fourneau. Ce matin, la championne de lutte Kumba Larocq et son tiramisu Nutella spéculoos. Quand on est sportif, on peut tout se permettre. Et puis laissez-vous tenter, Laurent Marsic, la séance de rattrapage pour ceux qui auraient encore des cadeaux à faire ou simplement envie de faire lire les enfants pendant les vacances. Encore plein de conseils, il sera 7h05.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Mais pour commencer, un exploit, celui de Colin O'Brady. Cet Américain est le premier à traverser l'Antarctique en solitaire et sans assistance.
1600 km en 54 jours sur des terres glacées, en tirant sa poulka, une sorte de traîneau qui abritait ses provisions. L'ancien triathlète de 33 ans est arrivé au bout de son défi hier, Pauline Simonet, après un ultime coup d'éclat.
Il a parcouru les 125 derniers kilomètres d'une traite. Départ le jour de Noël pour finir 32 heures plus tard sans dormir et dans un froid polaire. Parti le 3 novembre, équipé de ses skis de fond, l'ancien athlète de 33 ans a traversé l'Antarctique en solo du nord au sud, traînant derrière lui sur les terres glacées 180 kilos de matériel et provisions. Une première mondiale, c'est l'un des exploits les plus remarquables de l'histoire pour les médias américains. Ajoutant l'exploit à l'exploit, Colin O'Brady s'est remis d'un grave accident en 2008. Brûlé sur un quart de son corps, les médecins prédisaient qu'il ne pourrait plus marcher normalement. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, l'ancien champion de natation, qui a relaté chaque jour son périple sur son compte Instagram, explique avoir éprouvé les heures les plus exigeantes, mais aussi les plus heureuses de son existence.
Pauline Simonet, correspondante de RTL aux États-Unis. Là aussi, c'est un exploit réalisé par les sauveteurs. Cette fois, un enfant de 12 ans a été extrait vivant après avoir passé une heure enseveli sous la neige. Il avait été emporté par une avalanche alors qu'il skiait hors piste hier après-midi sur la station de la Plagne en Savoie. Il ne souffre a priori que d'une fracture de la jambe.
RTL Matin, 6h33.
4 gilets jaunes avaient pris à partie un commissaire à Valence. Ils écopent de 3 à 12 mois de prison ferme.
Le 8 décembre dernier, lors d'une manifestation sur le plateau des Couleurs, ces militants s'en sont pris au directeur départemental de la sécurité publique. L'homme était en civil, mais portait son brassard et son arme de service. Il a été roué de coups au sol. Hier, les 4 gilets jaunes ont assuré qu'ils ignoraient qu'il s'agissait d'un policier. Arnaud Grange les attendait à la sortie du tribunal pour RTL.
C'est sous les applaudissements d'une petite centaine de soutiens que ces gilets jaunes sont ressortis du palais de justice. Aucun n'a été immédiatement incarcéré. Stéphane Trouille a écopé d'un an de prison ferme.
Un énorme merci pour la solidarité qui est en place, que j'ai ressenti assez vite.
Aucun d'entre eux n'avait de casier judiciaire. Ils dénoncent un jugement sévère du tribunal.
La justice aujourd'hui a tapé fort. En tous les cas, on est là. On est tous les quatre dans le même bateau et on se bat pour nos idées, on se bat pour ce qu'on croit être bien et on continuera et merci.
Le lynchage des deux policiers avait été filmé par une caméra de vidéosurveillance dont les images ont été décortiquées à l'audience. 3 des prévenus affirment qu'ils ne savaient pas qu'il s'agissait de policiers. Les 2 hommes en civil portaient pourtant leurs brassards et leurs armes. Maria Brion, condamnée à 3 mois de prison ferme, a tenu à s'excuser.
Revoyant la vidéo, j'ai vu aussi dans quelles conditions eux-mêmes se trouvaient. Ils sont pas nos ennemis 24 heures sur 24. Et c'est des gens comme vous et moi, qui ont des familles aussi, qui ont eu peur ce jour-là. Et je pense que c'était bien de le saluer aussi, de le faire remarquer en tout cas.
Les 4 gilets jaunes vont réfléchir à un éventuel appel.
Arnaud Grange à Valence pour RTL.
Les gilets jaunes qui attisent les appétits politiques en vue des européennes.
Selon nos confrères du journal L'Opinion, Florian Philippot, le leader des Patriotes, a déposé la marque Les Gilets jaunes à l'Institut national de la propriété industrielle. Il n'est pas le premier. RTL vous le révélait la semaine dernière, la marque Gilets jaunes avait déjà été déposée plusieurs fois. Alors sans aller aussi loin, d'autres mouvements multiplient les appels du pied, de peur de voir une liste Gilets jaunes autonome face à eux au printemps prochain, Dominique Tenza.
Et pour cause, selon la dernière enquête Odoxa réalisée la semaine dernière, une liste estampillée gilets jaunes pourrait recueillir jusqu'à 8% des suffrages. C'est autant de voix piquées aux partis traditionnels, d'où l'empressement des uns et des autres à vouloir absolument apparaître le plus gilet jaune compatible. C'est le cas depuis le début du mouvement de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen qui, dans ce domaine, jouent la même carte. Les gilets jaunes, ce sont nos idées, clament-ils. Et ils n'ont pas totalement tort, hein. C'est surtout vrai pour Marine Le Pen. La preuve, c'est le principe des vases communicants. Si les gilets jaunes décidaient d'avoir leur propre liste, selon l'enquête, c'est le Rassemblement National qui perdrait des points. On comprend donc mieux l'ardeur de Marine Le Pen à vouloir faire cause commune, et elle n'est pas la seule. Fabien Roussel du Parti communiste s'est dit hier matin sur RTL ouvert, lui aussi à l'accueil de plusieurs gilets jaunes sur sa liste. Tous ont bien compris à la fois le danger d'une liste concurrente, mais aussi l'avantage d'avoir auprès d'eux des figures du mouvement devenues ces dernières semaines très populaires auprès des Français.
Dominique Tenza du service politique de RTL. Alors faut-il avancer les soldes de janvier pour limiter l'impact de la crise des gilets jaunes et aider les commerçants? C'est en tout cas la proposition du Conseil national des centres commerciaux qui plaide aussi pour davantage d'ouverture le dimanche. Selon la Banque de France, cette crise pourrait coûter 0,2 point de PIB, soit 4 milliards d'euros. Le début des soldes est prévu, je vous le rappelle, le 9 janvier. Le mouvement des gilets jaunes qui a aussi mis en difficulté les transporteurs routiers. Leurs représentants seront reçus par le gouvernement début janvier pour évoquer d'éventuelles mesures de soutien.
Et tandis que ce mouvement s'éternise, l'Élysée a tout fait pour déminer hier une nouvelle affaire Benalla.
La présidence a affiché sa distance avec l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, n'avait pas informé l'Élysée de son déplacement au Tchad avant de s'y rendre début décembre. Il ne l'a fait que la semaine dernière, assure le château. Réplique quasi immédiate d'Alexandre Benalla qui accuse lui l'entourage présidentiel de nuire à sa reconversion professionnelle avec des propos diffamatoires. Une nouvelle vie au contour toujours mystérieux, Jean-Alphonse Richard.
Oui, Alexandre Benalla, effectivement reconverti dans le conseil aux entreprises en matière de sécurité mais aussi de finances. Difficile de cerner exactement son activité, même si un homme d'affaires qui le connaît bien le présente comme un facilitateur, un conseiller pouvant mettre, grâce à ses contacts et son carnet d'adresses, certaines personnes en relation. Dès son départ forcé de l'Élysée, Alexandre Benalla s'est ainsi employé à mettre sur pied sa propre société. Il n'a cessé depuis de consulter, établissant son bureau dans un palace parisien, vite invité malgré ses déboires judiciaires dans des cercles restreints, comme cette réception de l'ambassadeur de Chine à Paris, avec des investisseurs et des financiers. Alexandre Benalla aperçu également à Londres, une rencontre avec le sulfureux Alexandre Djouri, dont la justice française réclame l'extradition dans le dossier du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, tête à tête qui aurait fortement intrigué les entourages de Nicolas Sarkozy et d'Emmanuel Macron. Alexandre Benalla, devenu homme d'influence, de quoi susciter la curiosité jusqu'au sommet de l'État.
Jean-Alphonse Richard.
Le djihadiste Peter Sherif, déféré au parquet de Paris.
Et cela en vue de l'exécution d'une peine de prison prononcée en 2011. Cette année-là, le djihadiste avait pris la fuite vers le Yémen. Il avait été condamné en son absence à 5 ans de prison. Peter Sherif était l'un des terroristes les plus recherchés au monde, connu notamment pour sa proximité avec les frères Kouachi, les auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo. Interpellé à Djibouti le 16 décembre dernier, il fait valoir depuis son droit au silence. Donald Trump en Irak, visite surprise du président américain hier, sa première en zone de conflit depuis son élection. Accompagné de son épouse Melania, il a atterri sur la base aérienne d'Al-Assad et a profité de ce déplacement pour justifier sa décision de retirer les troupes américaines de Syrie. Les États-Unis ne peuvent plus être le gendarme du monde. C'est injuste quand le fardeau est entièrement sur nous, a expliqué Donald Trump. Et puis en France, quelques 500 personnes étaient rassemblées pour rendre hommage à Théo hier à Lens. L'adolescent de 14 ans était retrouvé mort début novembre dans un local industriel, 5 mois après sa disparition dans des conditions mystérieuses. Après avoir accompagné un ami à la sortie d'une boîte de nuit, l'adolescent n'est jamais rentré chez lui.
RTL Matin, 6h39.
La bataille de l'ours relancée dans les Pyrénées.
Après l'arrivée de 2 femelles en octobre, les associations pro-ours réclament de nouveaux lâchers d'animaux pour sauvegarder l'espèce menacée en France. Sabine Matraire est la vice-présidente de l'association Férus.
On a émis dans nos demandes, alertes, objections, le fait que justement ce renforcement est limité, puisque la dernière expertise scientifique, c'est-à-dire celle du Muséum National d'Histoire Naturelle de 2013, précisait qu'il fallait lâcher entre 6 à 17 ours sur l'ensemble des Pyrénées pour réduire de façon satisfaisante les risques d'extinction.
Un appel dénoncé par une partie des bergers. Selon ses opposants, la présence des ours n'est pas compatible avec l'élevage. Olivier Morin, éleveur dans le Béarn.
25 ans après les premières réintroductions, on voit très bien le résultat, puisque ces trois dernières années, on a doublé le nombre d'attaques, doublé le nombre d'animaux prélatés. Donc le fait qu'on veuille développer nos ours comme il y a un siècle, ça paraît complètement inconcevable dans une montagne qui a bien changé, avec un pastoralisme aujourd'hui qui est quand même bien présent et bien vivant, puisqu'on voit bien que les Pyrénées telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est toujours aussi riche, et malgré le fait que les ours aient quasiment disparu.
Un témoignage recueilli par Jacques Seret pour RTL.
Alors, 2018 se termine à peine. Certains scrutent déjà le calendrier de 2019 pour guetter ponts et jours fériés.
Avec toujours le même objectif, Jérôme, poser le plus judicieusement possible ses congés pour les optimiser et bénéficier d'un maximum de vacances. Ça tombe bien, l'année 2019 devrait s'y prêter. De quoi ravir les salariés, comme vous l'avez constaté, Julien Caillard, dans l'entreprise Sonorcom, une petite maison d'édition normande, à Giberville, tout près de Caen.
Oui, dans cette entreprise, les salariés ont déjà les yeux rivés sur ce calendrier.
On est content, il y a plein de jours fériés qui tombent les vendredis, les lundis. Je pense que c'est prometteur.
Prometteur, et d'abord au printemps, les premiers 8 mai tombant un mercredi avec le lundi de Pâques, le 22 avril, il sera possible de profiter de 23 jours de vacances en posant seulement 12 jours de congé, sans compter un pont de 4 jours à l'Ascension.
Moi, ça me paraît énorme.
Oui, c'est énorme, et Morgane l'a bien compris.
Peut-être partir une nouvelle fois à New York au mois de mai, donc poser un tout petit peu moins de jours que prévu. Peu de jours finalement pour avoir une grosse capacité de vacances.
Reste qu'il va falloir négocier avec Sylvain, le patron.
Toujours d'accord a priori. Après on regarde le planning de travail, la charge. On s'arrangera dans le meilleur esprit possible, bien évidemment.
Oui, donc tout le monde ne pourra pas partir en mai, mais pas de panique. Novembre comptera 2 week-ends de 3 jours, une aubaine pour Dorine.
2 jours fériés qui tombent en semaine, ça a l'avantage de faire une grande coupure d'un peu plus d'une semaine et demie de congé. Donc je pense que ça sera pour partir loin. Je projette l'Islande. En plein mois de novembre, je suis joueuse.
Et notez que Noël tombera un mercredi, l'occasion peut-être de s'offrir un dernier pont.
Pourquoi pas, Julien Caillard, correspondant de RTL en Normandie.
Il y en a qui voient loin quand même. Merci beaucoup Céline Landreau, vous revenez tout à l'heure à 7h30.
À tout à l'heure.
RTL Matin 6h42.